Eugénie Mériot, bonjour. Le mouvement pro-démocratie à Hong Kong inspire-t-il la jeunesse thaïlandaise?
Alors oui, bien sûr, il y a une circulation des techniques de mobilisation de Hong Kong vers la Thaïlande, mais également de la Thaïlande vers Hong Kong. Vous savez, les Thaïlandais ont une expérience très très riche de manifestations. On a eu les mouvements chemise rouge et chemise jaune en 2010 avec énormément d'innovations en termes de mobilisation sur les réseaux sociaux. Et donc les Thaïlandais se sentent proches des Hongkongais. Il y a des rapports entre les leaders étudiants thaïlandais et les leaders étudiants hongkongais qui sont assez étroits. Et puis, il y a une opposition à la Chine autoritaire, ce que l'on nomme l'alliance du thé au lait, qui est donc une alliance de ces jeunes démocraties comme la Thaïlande, Taïwan et Hong Kong contre l'emprise croissante de la Chine sur leurs pays respectifs, et notamment sur les réseaux sociaux.
C'est du jamais vu, les manifestants osent critiquer le roi qui jouit pourtant d'un statut divin. Comment l'expliquez-vous?
Le nouveau roi, le roi Vajiralongkorn, qui est monté sur le trône en 2016, n'a pas réussi à maintenir cette aura religieuse et c'est une des raisons pour lesquelles les jeunes Thaïlandais se sentent beaucoup plus téméraires dans la critique de la monarchie que leurs aînés avant eux. Et puis aussi, il y a une dimension de fissure de l'idéologie nationale qui avait été consolidée par toute une série d'éléments de propagande, que ce soit à l'école, dans les médias nationaux, qui aujourd'hui ne fonctionne plus aussi bien, étant donné l'essor des réseaux sociaux et l'hyperconnectivité des jeunes. Et puis il y a un second aspect qui est celui de la richesse de la monarchie aujourd'hui. Vous savez que le roi de Thaïlande est l'un des monarques les plus riches au monde, si ce n'est le plus riche au monde. Il a également pris possession non seulement des biens personnels qu'il avait auparavant, mais également des biens de la couronne. C'est cette partie de la richesse nationale que les Thaïlandais voudraient voir redistribuée. Donc le roi apparaît comme finalement un élément de la paupérisation de la société thaïlandaise qui est encore plus criant au moment où le coronavirus a plongé des millions de Thaïlandais dans le chômage, en tout cas l'inactivité et la pauvreté.
Selon vous, qui dirige véritablement la Thaïlande depuis le coup d'État de 2014, le roi ou bien l'armée?
Le roi est toujours celui qui est aux manettes en Thaïlande. Bien évidemment, l'armée dirige le gouvernement aujourd'hui, c'est l'armée qui fait voter les lois, c'est l'armée qui engage les réformes, mais in fine, le processus décisionnel et le processus de signature ou de validation de l'ensemble de ces actions menées par l'armée est aux mains du roi. Donc aujourd'hui, comme hier, c'est le roi qui décide en Thaïlande et l'armée qui est son exécutant.
Des militants ont été arrêtés, les réseaux sociaux censurés, mais pour l'heure, le pouvoir en place ne semble pourtant pas envisager une intervention militaire. La craignez-vous toutefois?
Les manifestants sont des jeunes, des urbains. Leurs méthodes sont non violentes. Ils ne sont a priori pas armés. Ils n'ont pas de lien avec des partis politiques ou de lien avec des groupes armés. Ce qui avait été invoqué en 2010 pour tirer sur les manifestants. Donc cet élément-là est absent, ce qui protège les jeunes.
Merci Eugénie Mériot. Je rappelle le titre de votre livre, Idées reçues sur la Thaïlande, publié aux éditions Cavalier Bleu.